Notre invitée est aujourd'hui Marie-Louise Pieve, qui est comportementaliste canin et félin et également intervenante PECRAM.
L'invité de la semaine au micro de Philippe Jam. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsega International.
Bonjour, notre invitée est aujourd'hui Marie-Louise Pieve, qui est comportementaliste canin et félin. Bonjour Marie-Louise.
Bonjour Philippe.
Alors, comportementaliste canin et féminin, ça signifie quoi félin. Exactement? Quel est un peu le sens de ce travail?
Alors, c'est un travail donc, qui commence à être connu maintenant, bon, surtout dans notre région. Donc, en fait, ça consiste... mon travail, il s'articule autour de plusieurs axes, en fait. Mm-hmm. Donc, je propose des consultations de prévention, donc pré-post-adoption, pour les adoptants qui souhaitent accueillir un animal de compagnie, éventuellement, ou pour les adoptants qui ont accueilli un animal de compagnie et qui souhaitent avoir des conseils et des informations convenir... d'une relation sereine, épanouie avec leur animal de compagnie. Également, je propose donc des consultations accompagnement, donc qui consistent à aider les adoptants à un changement dans leur vie, par exemple un déménagement ou l'accueil d'un nouveau membre ou le départ d'un nouveau membre de la famille, éventuellement l'accueil d'un nouveau-né. Donc voilà, je propose aussi des conseils pour préparer l'animal à vivre ce changement plutôt sereinement et dans l'harmonie de la famille. Également, donc je propose des consultations donc de bilan comportemental. Là, c'est un petit peu plus compliqué puisque là, j'interviens en général pour les problématiques de comportement à la demande des propriétaires et à leur domicile. Par exemple, pour de la malpropreté, des conduites agressives, ça peut être pour des griffades intempestives, voilà.
Comment vous êtes venue à ce métier? Je suppose que déjà, ça passe par l'amour des animaux.
Exactement. Donc, en fait, moi, à la base, j'ai fait une grande carrière donc, dans le prêt-à-porter pour un groupe de prêt-à-porter national. Pendant 12 ans, j'ai été à la responsabilité d'un magasin. Mmh. Et puis, donc, je suis passionnée depuis toute petite par l'éthologie, donc, qui est la science du comportement animal.
Éthologie,
d'accord. Voilà. Donc, c'est vague, parce que ça touche tous les animaux globalement. C'est l'étude donc de la science des comportements animaliers. Et dans ma carrière en 2018, j'ai commencé à me poser des questions parce que je souhaitais me reconvertir et me lancer, parce que c'est pas évident quand on a une longue carrière de tout lâcher et de repartir.
Pour partir à zéro.
Voilà, exactement. Mmh. Donc j'ai été encouragée par mon entourage, heureusement. Et puis je vous cache pas que j'ai mon auto-entreprise, mais que à côté de ça, j'ai quand même un emploi salarié qui me permet de vivre aussi convenablement. Mais du coup, je veux aussi que ce métier reste une passion et vraiment le faire à mon rythme, prendre le temps qu'il faut. Je continue à me former. J'interviens aussi, donc je suis formée depuis mars, je tiens à le souligner parce que c'est très important et c'est très peu connu en Corse. Depuis mars 2023, j'ai été formée par Chantal Hazard, qui est une retraitée, de l'éducation nationale, à la prévention, au programme PECRAM, qui est donc le programme éducatif à la prévention et au risque d'accident par morsure, et qui est dédié aux jeunes publics, donc les 4-13 ans globalement, et donc qui permet d'apprendre aux enfants à l'aide de jeux de rôle, des ateliers ludiques, à apprendre donc à avoir les bons comportements et les bons gestes avec les chiens, donc en présence ou lors de la rencontre d'un chien éventuellement.
Vous intervenez dans les écoles? Comment ça se passe avec
oui.
les enfants?
Alors voilà, on peut intervenir dans les écoles à la demande, bien évidemment, dans les MJC, dans les centres aérés. Ça peut être à domicile également avec des groupes d'enfants. Ça peut être également dans les bibliothèques, dans tous les endroits où il est susceptible d'avoir des jeunes publics, en fait, et où on est susceptible de m'appeler. Donc, je suis disponible éventuellement. C'est tout nouveau. Donc, j'en fais un petit peu la communication aussi grâce à vous.
Justement, quels sont les problèmes les plus récurrents qu'on arrive à soigner en plus?
Alors, globalement, il faut savoir que toutes les problématiques sont en tout cas améliorables. Mmh. Alors, on ne dit pas qu'on va forcément tout le temps éteindre la problématique, Mais en général, si la motivation est quand même des deux côtés, alors quand je dis des deux côtés, c'est l'animal bien évidemment, mais ça dépend beaucoup aussi du propriétaire.
Oui, parce que souvent on dit que le maître y est pour beaucoup, que l'animal suit un peu le comportement du maître.
Alors,
donc, il n'y a pas également aussi, en même temps, une petite éducation, entre guillemets, du maître.
Oui, exactement. L'éducation, ça y fait. Après, une bonne éducation, voilà, ne va pas forcément vous garantir qu'une problématique, pour une raison X ou Y, ne pourra pas se déclencher plus tard. C'est pour ça que je vous disais, par rapport même aux consultations accompagnement, qui font partie des changements importants des foyers dont l'animal peut être sensible. Donc, il faut le prendre en compte. Et ça ne veut pas dire parce que vous avez fait tout bien, entre guillemets, ou que le propriétaire fait tout bien depuis toujours, qu'une problématique ne peut pas se déclarer. Nous travaillons avec des animaux, donc ce sont des êtres sensibles qui ressentent les émotions et également nos émotions. Mais comme vous disiez, bien sûr, ça dépend beaucoup du propriétaire, mais plus dans ce qu'il va transmettre. Voilà. Dans ce qu'il va transmettre, ce qu'il va mettre en place comme règle également, parce qu'il faut être cohérent. Et il faut être cohérent avec tous les membres de la famille, bien évidemment. Voilà. Donc, c'est pour ça que oui, toutes les problématiques sont en tout cas améliorables. Moi, j'ai jamais encore rencontré j'ai jamais eu l'occasion de retourner chez un propriétaire pour une problématique pas soignée jusqu'au bout. Mais en tout cas, ce qui ressort le plus en problématique, moi, chez les chats, alors ce qui ressort beaucoup.
Parce que les chats, c'est difficile.
Alors,
on dit que c'est difficile, que c'est un caractère indépendant,
exactement.
Plus qu'un chien peut-être.
Oui, ça ne fonctionne pas pareil, voilà, c'est ça. C'est que le chat, lui, ce qui lui importe, c'est de vivre dans un environnement enrichi, aménagé pour répondre à ses besoins éthologiques, donc ses besoins propres à son espèce, et également comportemental. Donc, on adopte un chat, et quand on adopte un chat, il faut savoir qu'un chat, ben voilà, c'est grimpeur, ça a besoin de faire ses griffades, ça a besoin d'avoir une certaine vision de son environnement en 3D, donc ça demande voilà, un aménagement et un enrichissement particulier des propriétaires, globalement pour les chats en captivité. Après, les chats qui ont accès à l'extérieur ont déjà cet enrichissement quand même bien, bien développé, ils sont assez épanouis. Donc c'est souvent ça, comportement, on va dire, et conduite agressive. J'ai pas eu de malpropreté pour le chat, alors que c'est quand même un comportement qui est censé ressortir pas mal, d'après les statistiques, on va dire. Et pour les chiens, en général, c'est plutôt des problèmes de réactivité congénère. Voilà, donc plutôt des chiens qui ont été mal sociabilisés avec les congénères ou alors très peu sociabilisés. Donc du coup, on a des petits problèmes de réactivité, mais ça se soigne très bien.
Je te jure, je boirai plus que du lait, je n'aime plus la vodka. Moi vouloir être un chat, tout qu'il soit quand je te vois. Moi vouloir être un chat, retrouver sur les gouttières mes copules de litière, mais toujours rester à toi. Prendre des michafouines, me lécher les babines quand viennent tes copines.
Moi vouloir être un chat et ne risquer de tes doigts quand le caresse sur moi.
D'un chien en laisse, tu ne comptes pas sur moi pour dormir sur le sofa, je te montrerai de quoi
est capable un gros chat. À ce jeu-là, je suis roi, et la souris ce sera toi. Et la souris ce sera toi. Et la souris ce sera
à vous faire accepter aussi de l'animal.
Alors non, pas forcément, parce qu'en fait, moi, je vais être l'intermédiaire entre le propriétaire et, et l'animal. En général, quand je viens, l'animal, bon, déjà, c'est rare qu'il fasse le fameux comportement indésirable ou gênant. L'animal est en général le temps de, voilà, de vous connaître, etc. Moi, en fait, mon job, si vous voulez, de par mon métier de comportementaliste, je vais donner les clés au propriétaire pour que lui travaille avec son animal. Voilà, donc c'est plus lui, en fait, qui a besoin de faire les choses, parce que moi, je ne suis pas là 24 sur 24.
Oui, tout à fait.
Voilà,
oui.
Donc il est plus favorable d'être pédagogue avec le propriétaire, donc de lui transmettre les connaissances et les clés nécessaires pour que lui travaille avec l'animal. Bien sûr que j'arrive pour une consultation comportementale, on va faire à peu près 2 heures de questionnement et de visite de l'environnement. Donc, c'est très ciblé. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de questions pour connaître le contexte d'apparition du comportement. Il est important de demander au propriétaire de voir un vétérinaire avant. C'est très, très important parce que s'il y a une problématique médicale qu'on ne l'a pas vue, ça peut poser problème et mettre en danger l'animal. Voilà. Donc, à ce moment-là, on questionne beaucoup, on prend en compte le contexte, tous les membres de la famille, et on essaye de partir sur une hypothèse de perturbation qui nous semble la plus logique d'après le rapport du propriétaire, parce que c'est lui qui nous transmet. Et ensuite, on va donner donc des propositions d'adaptation qui sont en cohérence avec la vie familiale et la demande du propriétaire et de l'animal. Je ne vais pas demander, je ne sais pas moi, à un propriétaire qui n'a pas d'extérieur de faire un trou dans son mur pour son chat pour qu'il ait accès à l'extérieur. Vous voyez, non, ce n'est pas possible, voilà. Mais en général, c'est beaucoup d'incompréhension souvent qui ressort. Et quand le propriétaire rentre en empathie avec son animal, comprend son animal, on arrive très vite à des bons compromis et ça se règle. Voilà, il y a un suivi de moi donc, qui est pris en compte dans la consultation. Voilà, je ne vous abandonne pas comme ça. Quoi. Je suis là.
On arrive à endiguer une conduite agressive d'un chien. Si le chien est méchant, on arrive quand même à le canaliser.
Alors, si on arrive à en trouver la
problématique... Ça passe par le maître.
Oui,
ou
alors...
vous travaillez sur l'animal.
En fait, c'est le maître qui va travailler avec son animal. Toujours pareil, moi, je vais donner les clés. En fait, si vous voulez, ce n'est pas tellement le travail qui est important, à mon sens, c'est de trouver la cause de cette agressivité. Parce qu'on ne va pas travailler de la même manière en fonction de la cause.
Bien sûr, oui.
Si votre chien... sinon, on fait du vent, en fait. Et le propriétaire voit qu'il n'y a pas forcément de résultats.
Donc oui, c'est au cas par cas, en fait.
Voilà, exactement. C'est du cas par cas. Voilà, vous avez dit ce qu'il faut. Et en fait, on va prendre en compte la cause. Une fois qu'on a plus ou moins déterminé la cause avec le propriétaire, parce que c'est lui notre intermédiaire aussi, c'est lui qui nous rapporte ce que l'animal... ce qu'il observe sur son animal, parce que moi, je ne l'observe pas tout le temps quand j'y vais. Hein. Et ensuite, s'il est réactif, par exemple, congénère, pour le cas d'un chien, on va travailler en fonction de la proxémie, donc de la cause, dans quel contexte il y a eu cette réactivité, ce traumatisme qui peut perdurer. On va travailler par rapport à l'individu, donc sa proxémie, c'est-à-dire la distance convenable où il ne réagit pas. Et on va petit à petit augmenter cette distance, rapprocher l'animal. Mais tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait avec plusieurs séances de travail. Donc, le propriétaire, au bout de 3 semaines, me fait un petit rapport. Voilà, on se fait un entretien téléphonique et on réadapte en fonction. Voilà. Mais c'est important de travailler au cas par cas et de trouver surtout la cause.
On peut endiguer l'aboiement, parce que ça aussi, ça doit être récurrent comme problème. Un chien qui aboie pour un oui, pour un non, est-ce qu'on peut endiguer ce problème d'aboiement?
Alors oui, on peut l'endiguer. Alors il faut juste comprendre que l'aboiement, c'est un moyen de communication naturel chez le chien, donc on ne peut pas totalement l'enlever, l'empêcher de faire. Par contre, c'est pareil, on a des aboiements qui peuvent être renforcés, alors soit par demande d'attention, donc mon chien aboie, il a une réponse à son aboiement, donc on renforce le comportement. Alors ça peut être une réponse négative comme positive, hein, c'est-à-dire qu'engueuler un chien qui aboie, si c'est sa demande, si c'est une demande d'attention, on le renforce sans le savoir. Ça peut être également par ennui. Il y a énormément de chiens qui restent dans les jardins. Alors, c'est très bien d'avoir un jardin, je ne dis pas le contraire. Mais un chien qui reste 12 heures dans un jardin, eh ben, au bout d'un moment, il s'ennuie parce que c'est un être sensible et qu'il a besoin sans cesse ben, qu'on lui apporte lui aussi des apprentissages, des connaissances, de la stimulation mentale et physique. Pas que physique, mais même mentale, justement. Et donc, le chien qui s'ennuie va se trouver des occupations et va peut-être aboyer non-stop sur toutes les voitures qui passent, tous les enfants qui passent. Il se peut que, bah, pareil, le voisin passe et rouspète et s'acharne sur le chien. Bah, le chien est renforcé, puisque du coup, ça va augmenter le comportement d'aboiement. Donc, je ne peux pas dire qu'il peut totalement s'éteindre, mais en tout cas, c'est pareil au cas par cas. Si on en détermine la cause et si c'est jugé intempestif, parce que si c'est un aboiement occasionnel... ma foi, c'est normal, voilà, on n'empêche pas un chien d'aboyer, c'est un chien. Mais si c'est intempestif, on en détermine la cause et à ce moment-là, on met en place, pareil, soit des exercices d'association positive avec, bah, mettons, les gens qui passent. On va apprendre au chien que les gens qui passent, c'est gentil. Il n'a aucune raison d'aboyer, donc on va renforcer et récompenser ce comportement. Si c'est par ennui, bah, il faudra trouver des aménagements et des enrichissements dans le jardin ou dans la maison, hein, si c'est dans une maison. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, mais voilà, je ne peux pas garantir, dire oui.
Je suppose que c'est plus facile de corriger un chien jeune que âgé, parce que l'âgé aura peut-être pris des habitudes.
Oui, voilà, vous avez dit, voilà, exactement. Donc, en fait, plus le comportement est installé, plus le comportement a été renforcé, et plus il est difficile, enfin, pas difficile ou pas impossible, mais oui, peut-être plus difficile dans le temps de le corriger. Il faut savoir que moi, je travaille qu'avec des méthodes bienveillantes et en respect avec donc les besoins éthologiques de l'espèce, donc les besoins propres à l'espèce, et donc la connaissance des besoins de l'espèce, c'est important aussi. Et en aucun cas avec des méthodes dites anciennes ou coercitives, donc qui demandent quand même une certaine autorité et violence avec l'animal. Et on peut se dire qu'un chiot ou un jeune chaton, plus vite on aura fixé un cadre, plus vite on répondra à ses besoins. Et comme on disait tout à l'heure, moins on aura de chances, logiquement, qu'une problématique se déclare. Après, il faut prendre en compte l'historique de l'animal, hein, en fonction de ce qu'il a vécu de très jeune, je dirais. Mais voilà, après, oui, c'est sûr que plus le chien aura installé le comportement adulte ou plus âgé, et plus aussi il aura été renforcé, et ça sera plus compliqué, bien évidemment. Ouais, ouais.
Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Sale bête, va. Veux-tu venir ici? Oh, il est reparti. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. C'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça. Veux-tu venir? dois-tu venir ici? Oh, ah oui, te voilà, veux-tu venir ici? Bouge pas, veux-tu venir ici? Oh, yeah, satané Mirza.
Alors vous êtes installé depuis un petit moment.
Oui.
Vous avez déjà eu des bons retours. Quel est le meilleur retour, par exemple, que vous auriez eu?
Alors,
un exemple.
Oui, bien sûr, oui. Alors, donc, j'ai pas de site internet, mais comme je vous disais, donc j'ai une page Facebook
oui.
Et Instagram, parce que bon. C'est suffisant
donc,
de nos
le titre pour vous retrouver sur Facebook, c'est ?
Alors, c'est Pets Complicity. Donc, c'est comportementaliste canin félin en Corse.
Mm-hmm.
Voilà. Et c'est un retour qui m'a marqué. Alors oui, j'ai des avis sur ma page, bien évidemment. C'est ce qui aussi fait parler de nos jours, il faut être mm-hmm. honnête. Et en fait, c'était... Alors, je ne vais pas dire le nom, parce que voilà, la personne veut rester anonyme. Mais voilà, en tout cas, bon, elle a mis un avis public sur ma page. Et c'était un cas qui, sur papier, me semblait être le plus difficile de ma jeune carrière. Mmh. Et en fait, ça a été le cas qui est rentré très, très vite et très facilement, on va dire, en application. J'ai eu des propriétaires, mais tellement extra... motivés, qui ont mis en place les choses très, très rapidement. C'est un cas d'anxiété en milieu clos d'un chat. C'est les chats qui sont tellement stressés qu'ils s'arrachent toutes les griffes. Ouais. Et ça m'a marqué parce que voilà, j'ai eu un super, super retour. Ça a été le cas le plus dur, enfin, je vous dis pour moi. Et ça a été celui vraiment qui m'a marqué le plus, quoi. Et grâce aux propriétaires et je les remercie parce qu'ils m'ont fait confiance, hein, parce que c'était un chat qu'on avait envisagé, enfin pas moi, mais le vétérinaire référent, qu'il avait envisagé de mettre sous Prozac, hein, quand même.
Ah oui.
Ouais. Donc voilà, j'en avais aussi omis la possibilité à la propriétaire, puisque même si je ne suis pas vétérinaire, je sais que quelquefois on est obligé de mettre en place une thérapie par médicament pour prendre aussi en charge la thérapie comportementale. L'un peut fonctionner sans l'autre, mais des fois, ils sont complémentaires. Voilà, donc on n'a pas eu besoin de le faire. C'était top, top.
Alors, vous êtes spécialisé dans le comportementalisme canin et félin. On peut également travailler sur d'autres animaux, les poissons rouges. Alors, je plaisante.
Oui,
on
oui,
peut
oui.
travailler sur d'autres animaux. Bon, on parle du chien, il peut y avoir des chevaux, des ânes. Oui. On peut travailler. C'est beaucoup plus dur ou c'est parce que vous avez pris par le fait de vous occuper plutôt des chiens et des chats.
Oui. Alors, moi, il faut savoir que j'ai été formée à distance par donc, l'école Humanimalis, qui est un centre de formation,
mm-hmm.
et qui propose également donc, la certification de comportementaliste équin et médiateur par l'animal, qui est aussi très en vogue et très à développer. Alors, je ne pense pas que ce soit plus facile ou plus dur de travailler avec d'autres animaux. Il faut juste les connaître et mmh. connaître surtout leur répertoire comportemental, hein, ce qu'on appelle chez nous voilà, l'éthogramme de l'animal. Après, le principe et le travail est le même, parce qu'on travaille en renforcement positif.
Mmh.
Donc, pour ça, on peut travailler avec des chevaux, des mmh. poules, mmh. des chèvres, des brebis. Alors, des poissons rouges, je ne pense pas qu'ils aient voilà, cette capacité à apprendre, mais quoique...
C'est pas ennuyant, ouais. Poissons rouges.
Oui, 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 voilà. Après, moi, ce n'est pas ma spécialité, mais je sais que...
Des races de chats ou de chiens qui sont plus faciles à éduquer, entre guillemets
Alors, il y a une génétique certainement due à la race, hein, bien mm-hmm. sûr, qui est transmise. Mais après, je vais vous dire, c'est vraiment au cas par cas en fonction de l'individu. Mm-hmm. Je pense qu'on peut considérer qu'il y a des races qui sont peut-être plus énergiques ou plus demandeuses mm-hmm. en fonction de leur sélection. Si c'est des chiens de travail, par exemple, où on a, par exemple, pour le cas du chat, les Bengales, qui sont quand même des races où on sait qu'ils sont quand même plus dynamiques, parce que c'est des chats qui ont besoin énormément, énormément de stimulation, parce que ce sont des chats qui ont été moins, peut-être, sélectionnés par l'homme, donc qui ont gardé un peu plus cet instinct félin, je dirais. Et on a des chats qui sont voilà, de réputation plus casaniers, plus calmes. Mmh. Mais c'est toujours pareil, c'est un peu la loterie. Hein. Mmh. Voilà.
C'est comme les humains.
Exactement, voilà. On peut sur papier avoir telle race qui apporte tel caractère, enfin, trait de caractère, on dira. C'est pour ça que moi, je enfin, je vais pas dire au propriétaire, voilà, si demain vous adoptez telle ou telle race, vous êtes sûr d'eux. Non, c'est pas vrai. Ça serait mentir.
Notre invitée était aujourd'hui Marie-Louise Pieve, qui est donc comportementaliste canin et félin. On rappelle vos coordonnées pour les gens qui seraient intéressés. Donc, c'est sur Facebook.
Oui. Alors, Facebook, c'est Pets Complicity. Donc, c'est comportementaliste canin et félin en Corse. Instagram, c'est pareil. Et ensuite, donc, il y a mon adresse mail. Donc, c'est Pets Complicity tout attaché. Donc, PETSCOMPLICITY. @iCloud.com et mon téléphone, donc 06 22 46 86 12.
Merci beaucoup Marie-Louise.
Merci à vous
et
Philippe.
Et puis peut-être à bientôt. Merci J'espère. À Auguste qui était à la régie.
L'invité de la semaine au micro de Philippe Jam. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International.